VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du lundi 28 mai 2018 en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Le président français Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui son homologue angolais, Juan Lorenzo, après le Rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, mercredi dernier.
Au Mali, une vingtaine de personnes, dont des civils, ont été tuées pendant le week-end dans une attaque de djihadistes présumés dans le nord-est, près de la frontière nigérienne.
Les services espagnols de sauvetage en mer disent avoir secouru ce week-end 532 migrants qui tentaient de traverser la Méditerranée à partir de l'Afrique du Nord.
Des officiels américains et nord-coréens se sont rencontrés hier dans la zone démilitarisée pour discuter d'un possible sommet entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, l'Église catholique s'est inquiétée hier d'un possible pic de nouveaux cas de fièvre Ebola dans l'épidémie qui touche le nord-ouest de la RDC. Des détails avec Anastasie Tudiesch.
Monseigneur Fridolin Ambongo, l'archevêque de Kinshasa, a exprimé son inquiétude alors qu'il rentrait d'une visite de 3 jours dans la région de Mbandaka et Bikoro, épicentre de l'épidémie, territoire dont il est par ailleurs l'administrateur apostolique. Il faut craindre un pic de nouveaux cas dans les 3 semaines à venir, puisque la période d'incubation du virus va de 2 à 21 jours, a-t-il écrit dans un communiqué. Monseigneur Ambongo a également indiqué qu'à titre de prévention, l'Église dans la région suspendait jusqu'à nouvel ordre l'administration des sacrements qui impliquent un contact physique avec les fidèles, à savoir le baptême, la confirmation, l'onction des malades, ainsi que les ordinations prévues pour le dimanche 3 juin. L'ONG humanitaire International Rescue Committee a écrit vendredi dans un communiqué que malgré une réponse internationale rapide, il y a un haut risque de propagation au niveau national et international et demande des fonds supplémentaires.
Le président français Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui à déjeuner son homologue angolais Juan Lorenzo en visite officielle en France, a indiqué hier l'Élysée, 5 jours après la visite du président rwandais et président en exercice de l'Union africaine Paul Kagame. Selon l'AFP, la rencontre d'aujourd'hui inquiète les autorités de la RDC, pays voisin où auront lieu en décembre des élections cruciales qui doivent organiser le départ du président Joseph Kabila. La raison, la déclaration faite par M. Macron, sans autre précision, en recevant mercredi M. Kagame, à savoir que la France soutient l'initiative prise par le président de l'Union africaine en lien étroit avec le président angolais.
Au Mali, selon des sources concordantes citées hier par l'AFP, une vingtaine de personnes, dont des civils, ont péri lors d'une attaque de djihadistes présumés samedi dans le nord-est, près de la frontière nigérienne. Les assaillants ont profité de la foire hebdomadaire de Talataï pour faire un coup de main contre un poste du Mouvement pour le salut de l'Azawad, MSA, issu de l'ex-rébellion à dominante Touareg, dans les environs, a indiqué une de ses sources.
Corruption au Nigeria, des millions de dollars officiellement débloqués par le gouvernement pour lutter contre l'insécurité alimentent en réalité un vaste système de caisses noires destinées à la corruption. On dénonçait lundi des ONG à moins d'un an de l'élection présidentielle, Jean-Roger Bion.
Au cœur du problème, les security vaults, ces fonds spéciaux sont alloués le plus souvent en espèces à de hauts responsables politiques pour des dépenses discrétionnaires dans le domaine de la sécurité. Un rapport qui leur est consacré affirme qu'à titre de comparaison, les sommes concernées dépassent le budget actuel de l'armée nigériane et représentent 9 fois l'aide financière américaine dans le secteur de la sécurité depuis 2012. Selon Transparency International, les bénéficiaires des security votes ont explosé, passant de 30 dans le budget fédéral de 2016 à plus de 190 cette année, en dépit des promesses de transparence du président Muhammadu Buhari. À l'approche des élections de 2019, cette augmentation soudaine devrait alarmer ceux qui supervisent les dépenses publiques nigérianes, affirme le rapport.
Washington a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner 6 nouveaux responsables sud-soudanais accusés de faire durer la guerre et de bloquer l'aide humanitaire. Parmi eux, le ministre de la Défense, selon un projet de résolution consulté par l'AFP dimanche. Comme les 6 autres qui se trouvent déjà sur une liste noire dressée en 2015, ces 6 personnes seront visées par des interdictions de voyager et par un gel de leurs avoirs si la résolution est adoptée lors d'une réunion prévue jeudi.
Les services espagnols de sauvetage en mer ont annoncé hier avoir secouru ce week-end 532 migrants qui tentaient de traverser la Méditerranée à partir de l'Afrique du Nord. Les bateaux de sauvetage ont recueilli dimanche 239 migrants à bord de 8 petits bateaux au large de la côte sud de l'Espagne. Samedi, ils en avaient secouru 293 qui tentaient la traversée à bord de 9 embarcations. Les conditions météo favorables dans le détroit de Gibraltar semblent être à l'origine de la hausse des tentatives de traversée de la Méditerranée.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Des officiels américains et nord-coréens se sont rencontrés hier dans la zone démilitarisée pour discuter d'un possible sommet entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Ces discussions devraient se poursuivre jusqu'à demain mardi, selon le Washington Post. Après avoir annulé ce sommet jeudi, M. Trump a ensuite déclaré que cette rencontre pourrait bien se tenir comme prévu auparavant, le 12 juin à Singapour. Hier, il a dit dans un tweet « J'estime véritablement que la Corée du Nord a un brillant potentiel et sera une grande nation économique et financière un jour. Kim Jong-un est d'accord avec moi là-dessus, cela arrivera », a conclu le président américain.
La Chine a protesté contre la présence de 2 navires de guerre américains après un incident dimanche en mer de Chine méridionale, une zone revendiquée par plusieurs pays. De nouveau, Anastasie Toudièche.
Le porte-parole de la diplomatie chinoise, Lu Kang, a rapporté que 2 bâtiments américains s'étaient approchés de l'archipel des Paracels, revendiqué par la Chine. La marine chinoise leur a ordonné de partir et les a expulsés, selon l'agence Chine Nouvelle. La marine américaine conduit régulièrement des opérations baptisées « Liberté de navigation » en mer de Chine méridionale, où Pékin a construit des installations militaires sur des îlots artificiels à l'appui de ses revendications territoriales. Cette zone stratégique voit passer près du tiers du commerce mondial. La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, en dépit d'un arbitrage international de 2016 qui lui a donné tort. Différentes parties de la zone sont revendiquées aussi par les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Brunei et Taïwan.
En Colombie, le candidat de droite Iván Duque est arrivé hier en tête du premier tour de l'élection présidentielle, mais il devra affronter son rival de gauche, Gustavo Petro, lors d'un second tour, le 17 juin, selon des résultats officiels.
Au Brésil, des manifestations de soutien à l'ancien président Lula, incarcéré depuis avril pour corruption, ont été organisées hier dans plus de 70 villes du Brésil pour revendiquer sa candidature à la présidentielle octobre, malgré sa condamnation. Nous retrouvons Jean-Roger Bion.
Lula est notre candidat, il n'y a pas de plan B. Notre défi est non seulement de faire la plus belle campagne de l'histoire de ce pays, mais de faire élire Lula au premier tour, a affirmé un député. Ces rassemblements convoqués sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Plus candidat que jamais » ont eu lieu tout au long de la journée, aussi bien dans les métropoles comme Rio ou Sao Paulo que dans de petites bourgades de la campagne du Nord-Est, région pauvre, dont Luis Inácio Lula da Silva, 72 ans, est originaire. Un des principaux rassemblements avait lieu à Curitiba, ville du sud du Brésil où l'ex-président purge depuis le 7 avril une peine de 12 ans et un mois de prison. Même s'il est en tête des intentions de vote, la loi brésilienne lui interdit en théorie d'être candidat en raison de sa condamnation, bien que des recours soient encore possibles.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Au Burkina Faso, le rythme de dégradation des terres est estimé à 469 000 hectares par an. Cette situation entraîne des conséquences écologiques importantes. D'après le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique, 350 espèces de plantes sont menacées et handicape la diversité biologique. À cela s'ajoute également 12 espèces de mammifères sauvages, 19 espèces d'oiseaux, 24 espèces de reptiles et 48 espèces de poissons. Ouagadougou appelle à plus d'engagement et de détermination pour mettre fin à cette tragédie. Au Cameroun, les entreprises dénoncent la pression fiscale. Ceci pousse le contribuable à développer des stratégies illicites pour payer le moins de taxes possible. D'une part, les entreprises refusent de suivre les voies légales pour payer les justes taxes. Et de l'autre, les agents de l'administration fiscale organisent une arnaque au détriment des caisses de l'État. Des pressions sont constamment exercées sur les opérateurs économiques intègres pour ne pas reverser leurs créances dans les caisses de l'État. Le Cameroun fait partie des 10 pays qui ont la plus forte pression fiscale en Afrique. L'Union européenne accorde à la communauté de l'Afrique de l'Est près de 100 millions de dollars pour développer des projets d'aquaculture sur le lac Victoria au profit des populations de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Kenya. La majeure partie du financement permettra de développer des projets socio-économiques. Le lac Victoria est le plus grand lac d'Afrique. Il est le véritable poumon économique de l'Afrique de l'Est et fait vivre plus de 30 millions de personnes.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football et on revient sur le sacre du Real Madrid en Ligue des Champions face à Liverpool. Touché à l'épaule, Mohamed Salah s'est dit confiant.
Oui, l'attaquant des Reds et des Pharaons compte bien être présent en Russie pour la Coupe du Monde sous les couleurs de l'Égypte, d'ailleurs logé dans le groupe A avec la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. L'attaquant de 25 ans l'a écrit sur son compte Twitter. Notons qu'il s'est blessé en première partie de la finale de la Ligue des Champions, remportée finalement 3-1 par le Real Madrid. Une 13e Ligue des Champions pour le club merengue, la 3e consécutive, et son coach Zinedine Zidane devient le premier entraîneur de l'histoire à l'avoir gagné 3 années de suite.
Si toute l'Égypte retient son siffle pour Mohamed Salah, la Tunisie pourrait jouer ce mondial sans sa star.
Il s'agit de Wahbi Khazri. Il est touché actuellement à la cuisse, mais est du voyage pour le stage au Portugal des Aigles de Carthage avec les 29 convoqués par Nabil Mahloul. Le milieu offensif de Rennes ne jouera pas demain contre le Portugal ni contre la Turquie, dernière rencontre avant la liste définitive du sélectionneur. Le premier match de la Tunisie au Mondial, ce sera le 18 juin prochain face à l'Angleterre.
En attendant, certaines sélections africaines pas qualifiées pour le Mondial s'affrontaient en amical hier, le Burkina Faso face au Cameroun.
Troisième de la dernière CAN, le Burkina Faso a fait tomber le Cameroun, champion d'Afrique en titre 1-0, c'était hier à Beauvais en France. Le Lyonnais Bertrand Traoré a inscrit le seul but du match.
Du football aussi en Afrique du Sud avec la COSAFA Cup.
Oui, le tournoi phare de cette zone australe de l'Afrique. Et pour cette première phase, 8 pays sont repartis en 2 groupes de 4. Dans le groupe A, en match d'ouverture hier, Madagascar a battu le Mozambique 2-1. Par contre, match nul 1-1 entre les Comores et les Seychelles. Première journée aujourd'hui dans la poule B, le Botswana joue l'Angola et le Malawi sera face à l'île Maurice.
Cyclisme avant le tour du Cameroun et Richer Noël remporte la 2e étape.
Le Français a remporté cette étape Kribi-Douala, longue de 175 km, et endosse du coup le maillot jaune au profit du Camerounais Kamzong Abesolo. L'étape d'aujourd'hui, qui sera la 3e, prévoit un circuit fermé dans les artères de la ville de Douala, longue de 108 km. Et puis, on finit avec vous, Idrissa, les playoffs de la NBA. Et on connaît le premier qualifié pour la grande finale.
Pour la 3e fois consécutive, LeBron James à la finale de la NBA. Cleveland s'est en effet qualifié dimanche en éliminant Boston au terme du match numéro 7 de la finale de la conférence Est, remporté 87-79. Par les Cavaliers sur le parquet des Celtics. La superstar de Cleveland, LeBron James, auteur de 35 points, 15 rebonds et 9 passes décisives, disputera donc sa 8e finale NBA d'affilée à partir de jeudi contre Golden State ou Houston, dos à dos, 3 victoires partout, dans la finale de la Conférence Ouest.
Bonjour, c'est Nicolas Pinault. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, les travailleurs du secteur public renouent avec ce qu'ils appellent la grève sèche générale et illimitée avec service minimum dans les établissements sanitaires. Ils dénoncent la non-application de l'accord signé entre le gouvernement et les partenaires sociaux en mars dernier, accord ayant permis la suspension de la grève qui avait paralysé l'administration tchadienne pendant plus de 3 mois. Le point avec André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Si l'accord du 14 mars dernier signé entre le gouvernement du Tchad et les organisations syndicales est appliqué, les agents de l'État allaient retrouver le sourire la fin de ce mois demain, car l'accord prévoit un moratoire de 3 mois. Et donc, à la fin de ce mois, le salaire de tous les fonctionnaires devrait être payé intégralement. Mais il n'en est rien. Non seulement le président Déby n'a pas respecté ses engagements, mais il demande encore un deuxième moratoire qui consiste à abattre le salaire jusqu'en décembre prochain. Pour Barka Michel, porte-parole de la plateforme syndicale revendicative, il n'appartient pas seulement aux travailleurs de faire des sacrifices.
C'est toujours les syndicats qui ont fait des concessions pour permettre aux enfants d'aller à l'école, pour permettre aux gens d'aller à l'hôpital. Mais le gouvernement n'a jamais fait un effort pour avoir un consensus allant dans le sens du bien de la population.
Le secrétaire général du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur, Mohamed Nour Ahmad Roufaï, donne raison à ceux qui ont qualifié en son temps cet accord de dupe.
C'est vrai, c'est un accord de dupe, c'est un accord de mouton que nous avons signé. Nous avons signé parce que nous aimons ce pays. Arrivé à terme, ils nous demandent encore un moratoire. Et nous disons aujourd'hui que ça suffit.
Barka Michel, porte-parole de la plateforme syndicale revendicative, ne regrette pas avoir paraphé cet accord.
Regretter, non. Nous constatons simplement que notre partenaire n'est pas de bonne foi. Le président de la République a dit que moi, je suis le garant de cet accord. Je ferai tout pour que dès le mois de mai, les choses redémarrent normalement. Quand même, c'est le président de la République. Vous ne pouvez pas dire que non, il ne vous dit pas la vérité.
En rappel, lorsque les travailleurs étaient allés en grève en 2007, à quelques jours des examens de fin d'année, le gouvernement a recruté les non-professionnels appuyés par les agents du service de sécurité pour organiser ces examens. Question d'éviter l'année blanche. Les mêmes causes ne peuvent-elles pas produire les mêmes effets? Réaction du secrétaire général adjoint du syndicat des anciens du Tchad, Mohamed Ibrahim Saleh.
En 2007, ils ont assez d'argent dans le malheur des pays, ils ont distribué à n'importe qui, maintenant, comme ils disent, il n'y a pas d'argent. Est-ce qu'ils peuvent faire comme l'année 2007? Je ne pense pas. Les enseignants, ils sont vraiment unanimes de faire échouer le gouvernement.
N'ayant pas d'arguments solides pour convaincre les syndicalistes à surseoir à cette grève, le président intégral a confié cette patate chaude à son cabinet civil, mais sans succès. Un service minimum est instauré dans les hôpitaux pendant la première semaine de la grève. Ce service s'occupera uniquement des patients hospitalisés dans les services spécifiques. André Kodmadjingar N'Djamena, VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24/24 sur VOA Afrique, à N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Le Burkina Faso a rétabli samedi ses relations diplomatiques avec la Chine, 2 jours après avoir rompu ses liens de plus de 2 décennies avec Taïwan. Les 2 ministres des Affaires étrangères, burkinabé et chinois, se sont rencontrés samedi à Pékin. Lamine Traoré, correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou, était présent dans la capitale chinoise. Son reportage.
C'est un moment historique, ce qui s'est passé à Pékin. Le Burkina Faso et la Chine populaire ont rétabli leurs relations diplomatiques 24 ans après leur rupture. Ils ont décidé de faire chemin ensemble après l'annonce jeudi du Burkina Faso de mettre un terme à ses relations avec Taïwan. Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères du Burkina.
Je puis vous assurer que ce rapprochement est tout à fait conforme non seulement à la vision du président Kabore, mais aussi à la volonté affichée du peuple burkinabé. Désormais, le Burkina Faso ne reconnaît qu'une seule Chine et cette décision a été prise en toute souveraineté et en toute indépendance.
Selon Pékin, le gouvernement burkinabé a suivi le courant de l'histoire et a pris une décision politique correcte. Il n'y a pas deux Chines. Wang Yi, ministre des Affaires étrangères de la Chine.
Le principe d'une seule Chine est le principe régissant les relations internationales universellement reconnues. C'est aussi le consensus de l'ensemble de la communauté internationale. C'est aussi le préalable fondamental et la base politique pour la Chine de développer ses relations avec tout d'autres pays. Toute tentative visant à diviser la Chine et à empêcher le progrès de l'histoire est vaine et vouée à l'échec.
Les deux pays veulent rattraper le temps perdu pendant plus de deux décennies, le ministre des Affaires étrangères chinois.
J'ai eu des échanges de vues approfondis avec le ministre Barry. Nous pensons tous qu'il faut travailler ensemble pour accroître la confiance politique mutuelle, faire progresser les échanges d'amitié et la coopération pragmatique dans de divers domaines pour apporter des bénéfices tangibles au peuple chinois et burkinabé.
Ouagadougou compte bien profiter de ce rapprochement avec Pékin. Alpha Barry.
Aujourd'hui, notre intime conviction est que nous devons être ensemble. Être ensemble et développer un partenariat avec la République populaire de Chine pour faire face aux nombreux défis actuels de développement socio-économique du Burkina Faso et également faire face aux défis sécuritaires de notre pays.
La signature d'un accord interviendra dans les trois prochains mois et les relations entre la Chine et le Burkina Faso vont prendre une tournure importante, selon le ministre Barry. Le président du Faso, Roch Kabore, a été invité au sommet de Beijing entre la Chine et l'Afrique en septembre prochain. Lamine Traoré, Pékin, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Mali, la pré-campagne électorale a été marquée pendant le week-end par l'investiture de trois candidats à la présidentielle de 2018. Mais celle du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, qui était annoncée pour hier, a été reportée à une date ultérieure. En revanche, 70 formations politiques ont signé une plateforme pour soutenir la candidature de M. Ibeka. À côté des candidatures classiques, il y a aussi des candidats comme le comédien international malien Habib Dembélé dit Gimba, qui avait déjà essayé en 2002. De Bamako, reportage de Kassim Traoré.
C'est sous une paillote du palais de la culture, avec quelques rangées de chaises occupées par les journalistes, que le comédien, humoriste et écrivain Habib Dembélé dit Gimba National a dévoilé les contours de sa candidature.
Nous pensons que des Maliens sont restés encore dignes. Donc nous avons dit au départ de notre candidature que nous allons nous présenter aux élections présidentielles. Nous allons être candidats à la candidature. Nous allons faire une campagne civilisée. Nous n'avons pas d'argent. Nous avons des idées. Nous avons notre volonté et parce que nous ne bénéficions pas donc de l'argent qui est mis à la disposition des partis politiques.
Dans le pavillon des sports du vieux stade de Modibo Keïta, les militantes et militants de la CODEM ont choisi Ousseni Amion Guindo, l'ancien ministre de l'Éducation, comme candidat.
En tant que président du parti, je ne peux que me soumettre à cette décision à l'unanimité des sections présentes et prendrai toutes les dispositions pour la mise en œuvre effective de cette décision souveraine avec vos soutiens à travers le Mali, des villages et des villes.
Il fallait prendre la route de Ségou et faire escale au centre catholique de Niamana pour connaître le nom du porte-étendard du parti Sadi pour la présidentielle. Oumar Mariko a été désigné par les délégués.
Le parti a fait le choix sur ma personne de porter à nouveau son drapeau pour aller à l'élection présidentielle. Je remercie donc les camarades pour la confiance, mais je dis encore une fois aux camarades que chacun personnellement doit redoubler d'efforts comme nous l'avons fait pour avoir aujourd'hui un parti stable qui continue d'évoluer positivement.
Ne connaissant pas encore la date d'investiture de leur mentor, 70 partis politiques de la majorité présidentielle ont mis en place une nouvelle plateforme dénommée Ensemble pour le Mali. Soumaïlou Boubey Maïga, premier ministre du Mali.
Nous aborderons cette campagne avec respect, avec humilité, mais avec confiance et détermination. Avec respect, parce que pour nous, tous les Maliens ont le droit d'être candidats. C'est pour ça que nous nous sommes battus pendant des années et des années. Donc nous respectons tous les candidats. Nous aurons les cartes d'électeurs dans la première quinzaine de juin. Il faudrait que vous vous mobilisiez massivement pour retirer vos cartes, aider les électeurs à retirer leurs cartes.
Sans une grande surprise, le parrainage de Tchèblen Dramé n'ira pas à la présidentielle de 2018 comme en 2013. Mais cette année, le parrainage soutient Soumaïla Cissé, Tchèblen Dramé, président du parrainage.
Nous sommes avec lui depuis des années dans la lutte contre le coup d'État, souvenez-vous. Beaucoup l'oublient. Pendant 5 années dans la lutte, dans l'opposition contre le régime en place. On était ensemble dans la lutte contre la révision constitutionnelle. Vous vous souvenez? C'est parce que nous étions unis que nous avons réussi à faire reculer Ibeka. Donc si nous sommes unis, nous le délogerons du couloir. Et c'est ça le processus qui est en marche.
Présent à cette cérémonie, Soumaïla Cissé a désigné Tchèblen Dramé comme son directeur de campagne.
J'ai découvert un homme d'honneur, un homme d'engagement, un homme qui tient sa parole. Je voudrais demander au peuple du parrainage de bien vouloir accepter que Tchèblen Dramé soit notre capitaine, notre directeur de campagne pour réussir à relever les défis.
Au moment où la fièvre de la campagne électorale bat son plein dans la capitale, à l'intérieur du pays, plus précisément au centre et au nord, c'est l'insécurité totale. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Sénégal, le président Macky Sall reçoit ce lundi la Coordination nationale des étudiants du Sénégal pour tenter de désamorcer la crise qui secoue les universités publiques du pays depuis la mort d'un étudiant tué par balle à Saint-Louis par les forces de l'ordre. Les étudiants ont manifesté contre le retard du paiement des bourses, une situation qui gangrène le système universitaire depuis plusieurs années déjà et qui provoque fréquemment de violentes grèves des étudiants. Reportage de notre correspondant Sédina Abagay à l'Université de Dakar.
Un énorme élan de solidarité s'est formé depuis la mort de l'étudiant Fallou Sène, avec une cessation des cours dans toutes les universités du pays. Les étudiants veulent profiter de cette situation pour avoir une solution définitive au problème des bourses. Diène Gom, président de l'Amicale des écoles et instituts de l'Université de Dakar, affirme que les étudiants souffrent énormément avant de percevoir leur bourse.
Nous restons jusqu'au 15 ou bien jusqu'au 20 sans être payés. Donc le problème de la bourse est d'abord lié à un problème de coordination dans les structures administratives, mais aussi à la gestion de l'écobanque par rapport à ce problème. Par exemple, si nous prenons Dakar, les étudiants dorment à la Belle Étoile parce que c'est une seule agence qui gère les plus de 100 000 étudiants à l'UQAM. Et c'est à cette agence-là de payer par billetage et de livrer les cartes d'étudiants. L'étudiant peut acquérir sa carte et rester 2 semaines sans pour autant que cette carte soit fonctionnelle. Donc c'est là aussi c'est un problème.
Dans un pays comme le Sénégal, la bourse est vitale pour la stabilité académique et sociale des étudiants. À l'UNDEM, coordonnateur du syndicat autonome des enseignants du supérieur estime que l'État doit consentir davantage d'efforts pour régler ce problème.
Vu le fait que beaucoup de ces enfants sont issus de familles pauvres, ils ont besoin de la bourse. La bourse est essentielle. Ce n'est pas une bourse pour aller faire plaisir ou bien pour jouer. C'est tout juste pour survivre. Et s'il y a une chose que notre nation doit supporter, c'est d'investir dans cette jeunesse-là, c'est d'investir dans l'éducation, la recherche, la formation. Nous sommes en train d'investir sur cette jeunesse, comme nous tous nous le faisons sur nos enfants, pour un bel avenir pour eux, pour notre nation et pour nous-mêmes.
La bancarisation, qui était censée alléger le système, est devenue le principal problème dans la perception des bourses. Et pour y remédier, le médiateur de l'Université de Dakar préconise une amélioration des conditions de prise en charge des étudiants.
Des désagréments que les étudiants subissent à Ecobank. Passer la nuit pour avoir une place, régler son dossier, ou pour même faire la queue au niveau des GAP, c'est déjà des problèmes difficiles. C'est tout simplement parce que Ecobank fonctionne comme une structure ou une banque qui a un monopole. Une seule banque gérant le monopole des milliers d'étudiants, ça devient difficile. Mais ça, c'est des problèmes de fonctionnement interne. Mais nous pensons que pour régler le problème de l'encombrement au niveau des banques, je ne dis pas qu'il faut casser le monopole, mais il faut diversifier les sources qui permettent aux étudiants d'être un peu plus à l'aise.
Face au président de la République, les étudiants tenteront d'obtenir le règlement définitif du problème récurrent des bourses et l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études dans les campus universitaires. S'ils obtiennent gain de cause, ils lèveront le mot d'ordre de grève décrété depuis le 15 mai et la mort de leur camarade Fallou Sène. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225 58 92. 4-0. Je répète, 225-58-92-4-0. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 5h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.